Europe Midi. Alexandre Lemaire.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est midi et demi. Valider ou retoquer l'extension du pass sanitaire à l'heure du verdict des sages, le Conseil constitutionnel tranchera en fin d'après-midi. Le pass sanitaire déjà appliqué dans certains lieux publics, nous irons en Loire-Atlantique où l'expérience est concluante. La crainte d'une nouvelle fracture sociale pour les non-vaccinés laissés à la porte. Reportage à suivre en Seine-Saint-Denis. Une canicule écrasante en Grèce, les feux se multiplient, les sites touristiques et les musées fermés au public. Et puis les JO de Tokyo, deux nouvelles médailles assurées pour la France en karaté et handball.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une question d'heure, l'extension du pass sanitaire entre les mains du Conseil constitutionnel. Sa décision est attendue en fin d'après-midi. Olivier Samin, le texte a été scruté point par point. Il s'agit donc de vérifier si les mesures sont proportionnelles aux objectifs poursuivis.
Oui, est-ce qu'au nom de la lutte contre la nouvelle vague du variant Delta, on peut restreindre les libertés? La réponse est oui, mais à condition que les mesures prises soient adaptées et proportionnées à cet objectif sanitaire. Voilà la grille de lecture du Conseil constitutionnel. Et dans le texte qui lui est soumis aujourd'hui, il y a plusieurs points, disons, sensibles. Par exemple, l'isolement obligatoire pendant une période de 10 jours de toute personne testée positive au Covid. Alors c'est vrai, les personnes en question pourront sortir de chez elles entre 10h et midi chaque jour, ainsi qu'en cas d'urgence. Mais cette souplesse sera-t-elle jugée suffisante par les sages au regard du principe de la liberté d'aller et venir?
Oui, et parmi les points sensibles, il y a aussi l'obligation pour les personnes qui se rendent à l'hôpital de présenter un pass sanitaire valide.
Alors là, c'est l'accès aux soins qui est en cause. L'Ordre des médecins est monté au créneau il y a quelques jours pour rappeler que la mission des soignants est de garantir l'accès aux soins pour tous. Dans le texte de loi, même sans pass sanitaire, on pourra venir se faire soigner si c'est une urgence. Mais l'accès aux soins programmés, lui, sera conditionné à la présentation du pass sanitaire. Les adversaires de la mesure y voient un cas grave de discrimination. Ils s'interrogent aussi sur les critères qui définiront l'urgence et attendent de pied ferme la décision du Conseil constitutionnel.
Oui, les sages sont aussi attendus sur le sort des salariés qui travaillent dans des établissements recevant du public.
Oui, on parle là des salariés des cafés, des restaurants, des grands magasins, des entreprises de transport de voyageurs. La loi dit que ces salariés, s'ils ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide, verront leur contrat de travail suspendu, de même que leur rémunération, avec le risque qu'au bout d'un certain temps, ils soient licenciés, en particulier les salariés en CDD ou en intérim, ce qui peut créer une rupture d'égalité frappant les travailleurs précaires.
Et Olivier, l'exécutif se dit confiant dans la décision que rendra ce soir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas montrer un peu trop d'optimisme?
Alors, il y a peu de chances que l'ensemble du texte soit retoqué, d'autant que fin mai, le Conseil, rappelez-vous, avait validé le principe du pass sanitaire pour les grands rassemblements. Mais il n'est pas exclu que certains passages soient censurés. Les sages pourront aussi fixer des réserves d'interprétation. Autrement dit, valider le texte, mais préciser la manière de l'appliquer quand plusieurs interprétations sont possibles.
Merci Olivier Samin. Peu avant cette décision attendue du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron confirme une troisième dose de vaccin à la rentrée, en priorité pour les personnes âgées et les plus fragiles. Pour lutter contre ce virus, il faut des rappels, estime le chef de l'État dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram depuis le fort de Brégançon. Dès lundi prochain, l'accès aux établissements accueillant du public sera donc conditionné à la présentation du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel devrait en acter le principe. Certains ont pris les devants et demandent déjà un pass aux visiteurs, comme au Grand Aquarium du Croisic, en Loire-Atlantique. Après des débuts difficiles, les choses se passent bien. Reportage Europe 1 de Charles Guyard à l'Océarium du Croisic.
Bonjour, bienvenue. Bonjour. Juste vérifier vos passes sanitaires, s'il vous plaît.
Juste avant d'entrer dans l'Océarium, Éléonore scanne les QR codes des visiteurs.
Et c'est parfait, merci.
La jeune fille a été recrutée spécialement pour cela, car ici, le pass sanitaire ou un test négatif est obligatoire depuis le 21 juillet et il a fallu vite s'adapter et faire face parfois aux mécontents. Céline Tessier, adjointe de direction.
Les deux premiers jours, c'était difficile. On a refusé du monde parce que les gens n'avaient pas ou un test PCR, donc ils ne pouvaient pas rentrer. On se faisait insulter.
Résultat, après l'entrée en vigueur du pass, le 21 juillet, la fréquentation du site a chuté de moitié avant, heureusement, de remonter peu à peu.
On sent quand même depuis quelques jours que l'usage du pass sanitaire est rentré dans les mœurs. Ça va assez vite en fait, à partir du moment où on scanne, puisque la lecture est immédiate.
En tout cas pour Marie-Josée, venue de Lyon en famille, apporter la preuve de sa vaccination n'est pas une contrainte, bien au contraire.
Je trouve ça normal en fait.
C'est pas la première fois que vous le sortez.
Non, c'est pas la première fois. On nous l'a demandé quand on a été visiter le château à côté de Cerzeau. Et je dirais même que c'est un peu rassurant en fait quand on va à des endroits où il y a beaucoup de monde.
Et du monde, il y en a beaucoup ici en ce moment. Il faut dire que la météo, bien maussade, n'invite pas vraiment à faire bronzette sur la plage.
Hop, c'est parfait. Merci beaucoup.
Le Croisic, Charles Guyard, Europe 1.
Expérience concluante donc au Croisic, mais le pass sanitaire soulève également des questions. Son élargissement va-t-il accroître les inégalités ? En Seine-Saint-Denis, on se vaccine moins que la moyenne nationale, alors que le nombre de contaminations est très élevé. Des élus et des associations redoutent sur place la double peine pour les plus démunis qui n'auraient pas de pass sanitaire. Laura Taouchanoff.
Un pass sanitaire qui exclurait les jeunes de l'école, de la piscine, de la bibliothèque, qui empêcherait certains adultes de garder leur emploi. Voilà ce que redoute Franck Dubois, le responsable des solidarités familiales au Secours catholique.
Les annonces du président de la République datent du 12 juillet. Je ne veux pas attaquer les pouvoirs publics, mais par rapport à des personnes qui peuvent avoir besoin de plus d'explications, pour lesquelles on vit au jour le jour, on aurait pu faire preuve d'un peu plus d'anticipation. Il faut les aider à franchir ce cap plutôt que d'imposer quelque chose qui peut être excluant.
Pourtant, la pédagogie a déjà été renforcée depuis plusieurs mois dans le centre de santé municipal de Romainville où exerce le médecin généraliste Anne-Sophie Pimpeau, mais ça n'a pas suffi.
J'arrive à convaincre, mais il faut vraiment aller discuter avec les gens. Si on ne met pas une dose de contrainte, la majorité des gens ne se feront pas vacciner. Moi, une grande, grande part de mes patients se font vacciner parce qu'ils n'ont pas le choix. Et s'il n'y a pas de contrainte, on va droit à l'échec dans les campagnes de vaccination.
Une campagne d'autant plus difficile à mener dans un département où beaucoup n'ont pas de contact régulier avec des professionnels de santé. Un habitant sur trois n'a pas de médecin traitant.
Laura Taouchanoff en Seine-Saint-Denis pour Europe 1. Les revendications contre le pass sanitaire et contre la vaccination ravivent les tensions. Marion Dubreuil, depuis plusieurs semaines maintenant, des élus sont pris pour cible.
Oui, 35 parlementaires ont fait l'objet de menaces depuis le début des actions contre le pass sanitaire. C'est le cas notamment de la députée de l'Hérault, Patricia Mirales, qui a déposé plainte à 3 reprises. Le parquet de Paris centralise actuellement ces dossiers.
Vous ne nous injecterez pas le vaccin, nous sommes armés, j'ai même eu la photo d'armes, nous n'hésiterons pas à venir vous mettre une balle dans la tête. Voilà, c'est des menaces de ce type-là. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse m'accuser de meurtrière parce que je faisais la promotion du seul traitement que nous avons aujourd'hui pour faire reculer cette pandémie. Il ne faut jamais négliger une menace. Jamais, parce que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller.
Le 16 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur a envoyé une note adressée à l'ensemble des préfets pour mobiliser policiers et gendarmes afin de rassurer les élus et renforcer la surveillance aux abords notamment des permanences des parlementaires.
Le Royaume-Uni supprime la quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de France métropolitaine. Cette mesure avait été imposée par Londres il y a 3 semaines, malgré un assouplissement des règles outre-Manche. Paris jugeait cette mesure discriminatoire.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Restez avec nous dans un instant, direction Tokyo, avec ses 2 nouvelles médailles garanties pour les Bleus. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Midi 39 sur Europe 1. 2 bonnes nouvelles donc en provenance des JO de Tokyo. Les handballeurs français se qualifient pour la finale. Ils sont donc assurés d'une médaille. Rendez-vous pris pour cela samedi. Mais dans l'immédiat, Corinne Boulou, 26e médaille garantie en karaté.
Oui, le champion du monde Steven Dacosta va disputer dans 20 minutes une demi-finale qui lui assure déjà une médaille, du bronze au minimum. C'est une particularité de cette nouvelle discipline à Tokyo qui disparaîtra d'ailleurs du programme de Paris en 2024. Les perdants du dernier carré de la compétition sont médaillés. En attendant, le Français de 24 ans, surnommé le petit prince du karaté, visera avant tout une place en finale et ce sera peu après 13h. Déception en revanche en cyclisme sur piste, Benjamin Thomas, le champion du monde de l'Omnium, a fini au pied du podium de cette course au point.
L'escalade pourrait bien apporter aussi aujourd'hui une deuxième médaille en début d'après-midi.
Oui, médaille espérée pour Mikael Mahouem et peut-être la plus belle dans cette nouvelle discipline olympique aussi. Le Français est sorti 3e de la finale de vitesse et il a pris la tête de la finale du bloc. Le podium de l'escalade sera décerné à l'issue de l'épreuve finale de difficulté vers 14h10. Et donc, vous l'avez compris, c'est bien parti pour Mikael Mahouem, le grimpeur de 31 ans originaire de Guyane. Et puis en athlétisme, Alexandre, il faut surveiller le concours du javelot en décathlon. Kevin Mayer, après 8 épreuves, s'est rapproché sérieusement du podium. Le vice-champion olympique de Rio est 4e à 46 points seulement de la médaille de bronze et à 130 points de la médaille d'argent avant le javelot qui commencera dans une grosse demi-heure, puis le 1500 mètres qui clôturera ce décathlon vers 14h40.
Et enfin, une médaille assurée donc pour les handballeurs français en finale samedi.
Oui, l'équipe de France s'est qualifiée pour sa 4e finale olympique consécutive. Les doubles champions olympiques, vice-champions olympiques à Rio, sont venus à bout d'une vaillante équipe d'Égypte qui a fait jeu égal longtemps avant de s'incliner finalement 27 à 23. Écoutez la satisfaction de Nicolas Karabatic au micro de France Télévisions.
C'est fabuleux. Ah, je pense qu'on... Ah, je réalise pas encore. C'est magique. Ces moments de joie avec l'équipe, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. On s'est battu, ça a été un match très difficile. Les Égyptiens ont très bien joué, ils se sont battus. Et nous, on a tenu tout le match, on a réalisé une grosse performance. Pas notre meilleur match, mais on a su mentalement rester concentré et hausser le ton en deuxième. Et c'est magnifique, je suis heureux.
L'équipe de Nicolas Karabatic qui sera opposée en finale samedi à l'Espagne ou au Danemark a en tout cas montré la voie au basket et au volley masculin tricolore puisqu'à 13h, coup d'envoi de la demi-finale France-Slovénie de basket pour aller affronter en finale les États-Unis tenants du titre olympique qui ont éliminé les Australiens. Et puis à 14h en volley, la France opposée à l'Argentine visera la première finale olympique de son histoire. Ce sera éventuellement face à la Russie samedi.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Merci Corinne. À suivre à 13h, Club Tokyo présenté par Lionel Rosso. Il devait être champion de la relocalisation en France. Les cycles merciers ne reviendront pas dans les Ardennes. Ce territoire sinistré attendait pourtant cette usine de vélos merciers, marque culte associée aux grandes heures de Raymond Poulidor. 500 000 vélos par an, 270 emplois. Le projet devait voir le jour avant la fin de l'année. Or, la préfecture annonce le désengagement de l'État, Damien Mestre. C'est un coup de massue pour les élus.
Un vrai ras-le-bol, une profonde désillusion. Ce sont les mots des élus locaux qui ne comprennent pas ce revirement de dernière minute. L'État devait injecter plus de 5 millions d'euros dans le projet. Un projet qui suscitait beaucoup d'espoir dans ce territoire en crise, explique Pierre Cordier, député LR des Ardennes.
Quand vous êtes dans une commune comme Revin où il y a 27% de chômeurs, le fait de voir revenir 270 emplois à terme, eh bien c'était une lueur et une forme de fierté. Vous imaginez la grosse déception et la colère finalement des citoyens.
Made in France, réindustrialisation, promotion du vélo, le retour des cycles merciers semblait cocher toutes les cases pour séduire l'État. Mais les autorités expliquent finalement avoir découvert des faits graves. Le porteur de projet ferait l'objet d'enquêtes douanières et fiscales, notamment pour des fraudes à l'importation. Le PDG de Mercier, Jean-Marc Séguézi, dément lui formellement ces accusations, parle même de diffamation et il affirme sa volonté de voir le projet aboutir.
L'idée, c'est bien évidemment d'avoir la possibilité de ramener cette production de marque française en France. Malgré les obstacles qu'on rencontre actuellement.
Il espère une marche arrière de l'État, envisage de poursuivre cette affaire en justice, alors que selon lui, des machines ont déjà été précommandées pour une valeur de 3 millions d'euros.
La Grèce piégée dans la fournaise. Les pompiers luttent contre plus de 100 incendies, dont deux très violents. Des flammes de dizaines de mètres encerclent les villages de l'île d'Eubée. Le site archéologique d'Olympie, berceau des Jeux Olympiques, menacé lui aussi. Pourtant habitué à des étés chauds, Athènes est prise sous des chaleurs écrasantes. Les sites touristiques comme l'Acropole et même les musées climatisés sont fermés au public. Yasmine Akatou.
Cet après-midi à Athènes, il fera 42 degrés, ressenti 46. La Grèce n'a pas connu une telle canicule depuis 1987.
Quand on est en plein soleil, on a la peau qui brûle.
Sophia devait visiter Athènes, mais...
On n'a encore rien vu d'Athènes. On a essayé en fait d'aller au musée parce qu'on s'est dit c'est là que la clim sera la plus forte. Et en fait, à cause de l'incendie qui s'est déclaré pas très loin, on s'est fait virer du musée 10 minutes après être arrivé. On a tenté de sortir le matin tôt. Ça reste ingérable et le soir tard, il n'y a pas trop de choses à faire.
Chez les habitants d'Athènes, l'inquiétude monte. Pourtant habitués aux fortes chaleurs et aux incendies, ils ne parlent que du feu qui ravage des villages près de l'aéroport, comme l'a constaté Marc, un habitant.
Sur la chaîne d'info en continu principale grecque, c'est des images en boucle, donc on sent vraiment cette atmosphère assez angoissante. Cet été, ça fait deux fois qu'il y a un épisode caniculaire. Il n'y a qu'un mois d'écart entre les deux. Ça fait un peu flipper, il ne faut pas se cacher. Les Grecs, même si ils sont habitués à la chaleur, ils la supportent mal aussi. Hein. Tu respires mal, tu as l'impression d'être fouetté par un sèche-cheveux. Quoi.
Et jusqu'à demain, les sites archéologiques en plein air resteront fermés l'après-midi pour éviter aux visiteurs d'être exposés aux températures les plus chaudes de la journée.
Pour vos vacances, vous avez peut-être pris l'habitude de réserver vos nuits d'hôtel sur des plateformes en ligne comme Booking ou Expedia. Fausse bonne idée, répondent des hôteliers qui vous encouragent à réserver directement auprès d'eux, simplement parce que tout le monde y gagne. Reportage de Minina Fachin à Zellenberg, près de Colmar.
Dès qu'un client de l'hôtel-restaurant au Riesling réserve une chambre via une plateforme en ligne, Mélanie Brandt, la gérante, intervient. Elle lui suggère de passer directement par elle la prochaine fois. Tout le monde y gagne.
Pour les clients, ils ont des avantages au niveau du tarif, moins cher en direct. Il y a une souplesse au niveau de l'annulation pour nous, donc c'est très bien. On ne paye pas de commission. Quand on a une réservation sur Booking, nous payons 15% de commission et cette commission n'est pas taxée en France.
Bonjour messieurs, dames. Bonjour. S'il vous plaît.
Et les incitations de Mélanie, visibles aussi sur son site internet, commencent à porter leurs fruits. 13% seulement des réservations en ce moment sont faites via Booking. Ludovic, venu passer 3 jours de vacances ici avec sa famille, a été convaincu.
C'est plus simple de travailler en direct avec les hôteliers que de passer par une plateforme de réservation où parfois on paye plus cher. Avec la période de Covid qui s'est passée et les fermetures des établissements et des restaurants pendant un an, ça a été assez compliqué pour eux. Ouais. Donc, c'est aussi une certaine manière de les soutenir.
Ludovic a ainsi économisé 10 euros par nuit et il aura même droit à une ristourne la prochaine fois qu'il séjournera dans cet hôtel. Zellenberg, Mélina Fachin, Europe 1.
La tendance météo de ce jeudi 5 août, Valérie Darmon, vous aimeriez nous surprendre, on vous comprend, mais toujours pas, hein, en fait.
Effectivement, pas du tout. De la pluie, des averses sur une large moitié nord, des éclaircies sur les régions les plus méridionales qui reviennent, des températures qui restent inférieures aux normales de saison sur une grande moitié nord, avec au mieux 20 à 24 degrés, 23 à 26 du sud-ouest jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Vous retrouvez quand même le soleil sur le Pays Basque. 26 à 30 sur les régions méditerranéennes. Ce beau temps qui se fait réellement attendre, hein, sur la moitié nord, c'est pas pour tout de suite malheureusement.
Merci beaucoup, merci Valérie. On vous retrouve à 13h pour un point complet.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Restez avec nous dans un court instant, je reçois Anne-Laurence Petel. Avec 35 parlementaires, la députée LREM d'Aix-en-Provence appelle à l'interdiction de la corrida. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire.
Mon invité dans Europe Midi, Anne-Laurence Petel, bonjour.
Bonjour.
Députée La République En Marche d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, vous appelez donc à interdire la corrida avec 35 collègues parlementaires. Vous venez de signer un appel publié dans le journal du dimanche.
Oui.
Ce sont les images d'une corrida qui vous font réagir en particulier. Corrida organisée le 14 juillet dernier dans le Gard et dont les images ont été diffusées par la Fondation Brigitte Bardot, hein, c'est bien cela?
C'est ça, on réagit à ces images, mais en fait, ce sont des images qui existent à chaque fois qu'il y a une corrida. Et pour nous et pour ces parlementaires qui ont signé cette tribune, c'est une conviction profonde et de longue date qu'il faut faire évoluer nos traditions et non pas continuer avec des traditions qui, en fait, portent en elles la torture et la barbarie sur des animaux.
Vous siégez à l'Assemblée, Anne-Laurence Petel, vous savez donc que la corrida reste un sujet qui divise. C'est un spectacle qui a son public, toutefois.
Alors, c'est un spectacle, effectivement, pour ceux qui aiment ce spectacle. Néanmoins, ça reste quand même un spectacle qui est regardé et qui est apprécié par une minorité de personnes. Nous, ce qu'on demande, ça n'est pas d'arrêter les traditions, c'est de les faire évoluer et de les adapter aujourd'hui à ce que les gens demandent, à ce que les Français demandent, c'est-à-dire aux attentes sociétales, avec une meilleure prise en compte de du bien-être animal. On a, par exemple, en Allemagne, fait évoluer les chasses traditionnelles, puisque la chasse à courre se fait aujourd'hui avec un leurre et non plus sur des animaux vivants. Donc je pense qu'on peut être capable au XXIe siècle de faire évoluer nos traditions.
Anne-Laurence Petel, vous parlez sans doute en ce moment même à des auditeurs d'Arles, de Bayonne, de Dax, de Béziers qui ont une tradition taurine très ancrée. Ça fait partie de leur culture?
Bah, écoutez, moi je suis parlementaire et députée du sud de la France, hein, d'Aix-en-Provence. Je suis née du côté de Fréjus-Saint-Raphaël où il y a des arènes. J'ai assisté à des corridas quand j'étais jeune. Mais j'ai cette conviction profonde et de longue date qu'il faut qu'une société aussi se regarde à l'aune du traitement qu'elle fait de ses animaux. Et je leur dis aussi qu'on peut aimer un spectacle avec... c'est vrai que ça peut être beau, hein, une arène avec un toréador, avec des habits de lumière. C'est exactement ça d'ailleurs, hein, des habits qui scintillent. Cette espèce de chorégraphie qui peut être effectivement appréciée, mais je leur demande aussi de regarder comment évolue la société et est-ce qu'on peut aujourd'hui se réjouir devant un spectacle qui n'est pas autre chose que la torture d'un animal qui subit les coups pendant quelques heures jusqu'à subir la mise à mort devant des spectateurs. Je ne pense pas que l'animal soit là volontairement et je crois qu'aujourd'hui on peut faire en sorte que les spectacles sans torture soient possibles.
Anne-Laurence Petel, c'est possible de se mettre autour de la même table aujourd'hui, pro et anti-corrida, et de discuter où les positions sont trop braquées, trop tranchées?
Alors, quand je vois les propos du président de l'Observatoire de la corrida, je me dis qu'il faut savoir raison garder. On a à peu près été traité de tout, y compris de xénophobe. Je ne vois pas du tout le rapport. Mais donc, je pense qu'avec des aficionados raisonnables et des défenseurs de la cause animale raisonnable, ce que nous sommes, nous ne sommes ni véganes, ni antispécistes, nous ne sommes pas pour tout supprimer, mais nous sommes aussi pour que demain, on vive dans une société où l'animal est mieux pris en compte. Et je tiens quand même à vous dire que depuis que cette majorité est là, nous avons fait beaucoup pour la cause animale, puisque nous allons bientôt mettre fin, par exemple, au broyage des poussins, à d'autres pratiques dans l'élevage. Nous faisons voter une proposition de loi qui va passer fin septembre au Sénat, où on encadre la vente des animaux, on supprime la vente des chiens et chats dans les animaleries. Donc on fait beaucoup pour la cause animale. Je pense que ça correspond à une attente sociétale réelle des Français qui sont beaucoup plus impliqués dans la préservation de leur environnement. Et la préservation de l'environnement, ça va aussi avec la préservation de la condition animale et avec une meilleure prise en compte des animaux.
Sur la condition animale et la corrida en fait partie, on a le sentiment, Anne-Laurence Petel, qu'on ne peut toujours pas aborder sereinement ces questions dans le débat public.
Encore une fois, on peut les aborder sereinement dans le débat public à la condition qu'on se parle entre gens raisonnables et qu'on ne se parle pas entre extrémistes. Encore une fois, je vous l'ai dit, nous ne sommes ni véganes ni antispécistes. Et de l'autre côté, il ne faut pas avoir non plus des personnes qui nous traitent de tous les noms ou qui nous insultent parce qu'on leur parle de leur tradition et qu'on leur demande de la faire évoluer.
Oui, mais qui vous insulte. Mais lorsque vous parlez de pratiques barbares, Laurence Petel, vous concevez que vous pouvez heurter d'un autre côté les amateurs de ces spectacles. Ce sont des mots qui sont très forts également.
Alors, je vais juste vous citer quelque chose. C'est la loi. C'est effectivement le code pénal qui sanctionne la torture sur un animal qui entraîne la mort. Demain, par exemple, dans le code pénal, la proposition de loi fera évoluer les sanctions à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour toute personne qui aura torturé un animal entraînant la mort. Eh bien, l'exclusion de cela, c'est la corrida. D'un côté, on va sanctionner la torture et la mort d'un animal, mais on va exclure la corrida de cette torture et de cette mort.
Vous parlez de justice, Anne-Laurence Petel. Je vois que la SPA vient d'être déboutée précisément par la justice sur la question de la corrida. Elle avait saisi le tribunal correctionnel de Nîmes pour cruauté envers les animaux. La SPA qui se retrouve à devoir payer les frais de justice, 4 000 euros.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le code pénal ne sanctionne pas la torture et la mort d'un animal dans le cadre d'une corrida. C'est la réalité du code pénal nous souhaiterions voir évoluer.
Dans l'immédiat, vous demandez l'interdiction des mineurs aux arènes. Ce n'est pas un spectacle pour les enfants, dites-vous.
Écoutez, je pense que si on peut éviter aux enfants de voir de la souffrance animale et d'assister à la... Oui, à la mise à mort et à la torture d'un animal, alors que par ailleurs, on essaye de dire aux enfants et de les éduquer en leur disant de prendre soin de leur animal. On fait des campagnes contre l'abandon. Aujourd'hui, on a beaucoup d'abandon parce que les gens ont pris des animaux pendant le confinement et sont en train de les abandonner. J'ai vu encore hier deux chatons qui étaient dans une poubelle. On demande aux enfants de prendre soin des animaux et de faire attention à la condition animale. Et par ailleurs, on les amènerait à un spectacle où on torture un animal et où on le met à mort. Y a quelque chose d'assez étrange et paradoxal.
Vous ne visez donc que les spectacles avec mise à mort et pas d'autres spectacles de la culture taurine, par exemple la course camarguaise.
Aujourd'hui, on est vraiment sur cet aspect de la corrida qui est un aspect finalement mortifère qui conduit à torturer un animal. Donc on n'est pas sur les autres traditions locales.
L'hiver dernier, vous avez examiné à l'Assemblée une proposition de loi contre la maltraitance animale portée par votre majorité. Et la question de la corrida, là encore, a été laissée de côté. Ça reste un point de blocage pour le législateur.
ça reste un point de blocage pour le législateur. Néanmoins, je vois que à l'Assemblée nationale, puisqu'on a beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de jeunes depuis 2017, on a considérablement avancé sur la lutte contre la maltraitance animale. Et si on peut voter cette proposition de loi, c'est aussi parce que la physionomie du Parlement et notamment des députés a changé. Je vous avoue effectivement que la chasse et la corrida restent des points de crispation.
La chasse à court également, hein, qui est une question qui est régulièrement laissée de côté, elle aussi.
C'est la chasse à court est une question qui a été laissée de côté. Voilà, nous, on aurait souhaité qu'elle fasse partie de cette proposition de loi. Il faut effectivement atterrir ensuite avec le Sénat sur ces questions-là. Si on peut faire avancer au moins une partie de la lutte contre la maltraitance, c'est déjà un premier pas et un grand pas. Je vous avoue que l'Angleterre et l'Allemagne ayant mis fin aux chasses à court, on est quand même nombreux à se dire que la France pourrait leur emboîter le pas sans que ça pose de problème.
Anne-Laurence Petel, une victoire pour les défenseurs des oiseaux. La chasse à la glu, qui est une pratique courante dans votre région, a été définitivement interdite par le Conseil d'État à la fin du mois de juin.
C'est le cas et on se conforme à l'Europe sur ce point-là. La chasse à la glu fait partie de ces chasses traditionnelles que l'on aimerait également voir disparaître, parce qu'il n'y a pas que la chasse à la glu, mais elle était pratiquée et elle est pratiquée illégalement encore aujourd'hui, puisqu'on a attrapé certaines personnes en train de continuer cette pratique dans les forêts du Sud-Est. Et c'est quand même une bonne nouvelle que nous ayons pu mettre fin à cette chasse traditionnelle.
Qui n'est d'ailleurs pas la seule, hein. Vous mentionniez la fin du broyage des poussins courant 2002, la castration à vif des porcelets, hein, autre pratique qui sera interdite à partir du 1er janvier prochain, la filière porcine qui devra utiliser un anesthésiant.
Exactement. On fait évoluer aussi toutes les pratiques, y compris celles de l'élevage. Et ça, c'est un grand pas aussi que vient de faire le ministère de l'Agriculture. Ça a été annoncé par Julien de Normandie. On le souhaitait depuis longtemps, hein, au moment d'Egalim en 2018-2019. Nous souhaitions faire évoluer ces conditions du broyage des poussins et de la castration à vif des porcelets. À partir de 2022, on ne pourra plus avoir ces pratiques qui sont malgré tout indignes. Et ça, c'est une bonne nouvelle également. Et je remercie Julien de Normandie parce que c'est aussi un ministre et un ministère qui a pris conscience de la condition animale et de l'évolution que l'on doit avoir aujourd'hui avec les attentes sociétales des consommateurs.
Ouais, la loi française reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. C'est un premier pas pour aller plus loin, Anne-Laurence Petel.
Ça, c'est le cas depuis 2015. C'était un premier pas et un grand pas. Et là, avec la proposition de loi qui va passer au Sénat et puis qui passera en seconde lecture à l'Assemblée nationale, avec les annonces qui ont été faites à partir de 2022 par Julien de Normandie, on fait des pas presque de géant, fin du broyage des poussins et de la castration à vif, interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, fin de l'élevage des visons également.
Des visons, oui, 2025.
Voilà. 2025, on a beaucoup dans cette proposition de loi de mesures qui vont dans le bon sens et qui vont dans le sens, encore une fois, de ce que souhaitent les Français. Ils ont envie d'être plus proches de leur environnement et des animaux.
Merci Anne-Laurence Petel, députée de La République En Marche d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Dans un instant sur Europe 1, le journal de 13h et le Club Tokyo avec Lionel Rousseau. À tout de suite.